Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour la grande édition de midi sur Radio Kapi. Je suis Gisèle Kaja à la présentation et voici les titres du jour. L'occupation du Nord Kivu et l'avancée du M23 vers le Sud Kivu. Hier, à Kinshasa, le président de la République a discuté avec les députés nationaux et les sénateurs de ces deux provinces. Félix Tshisekedi a rassuré ses élus que des efforts diplomatiques sont en cours pour obtenir le retrait du Rwanda du territoire congolais. Choqué par l'avancée du M23 soutenu par le Rwanda, le Parlement européen a convoqué une session spéciale à Strasbourg hier jeudi pour analyser la situation sécuritaire et humanitaire au Nord Kivu. Des sanctions concrètes contre Kigali ont été proposées. Journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées, célébrée ce jeudi 30 janvier. Ces maladies dévastatrices continuent de sévir dans plusieurs zones de santé du Haut-Katanga. Nous en discutons avec le docteur Alice Moutekwa, médecin coordonnateur provincial de la lutte contre ces maladies. Elle est notre invitée et vous l'entendrez dans un instant. La situation sécuritaire dans le Nord et le Sud Kivu reste préoccupante. Hier soir, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé avec les députés nationaux et les sénateurs de ces deux provinces. Les discussions ont porté sur les conséquences des attaques du M23, notamment à Goma, les efforts du gouvernement pour secourir la population meurtrie et les mesures pour libérer les zones occupées par l'armée rwandaise. Le président Félix Tshisekedi a rassuré les élus sur les efforts diplomatiques prometteurs visant à inciter la communauté internationale à exiger le retrait de militaires rwandais de la RDC. Les élus de deux provinces ont réaffirmé leur soutien au président de la République, Michel Kifindangoy.
Il ressort de ces échanges entre les présidents de la République et les élus du Kivu que la ville de Goma connaît un drame sécuritaire et humanitaire suite à un envahissement par l'armée rwandaise. Pour le président des élus des caucus du Nord Kivu, la situation dans la ville de Goma est dramatique. Des cadavres jonchent les rues, l'eau et l'électricité sont coupées depuis plusieurs jours. Les habitants ne peuvent pas s'approvisionner en nourriture. En dépit de cette situation extrêmement préoccupante, le chef de l'État a rassuré aux élus que le processus diplomatique évolue très bien et espère que la communauté internationale va exiger au Rwanda le retrait de ses troupes. Félix Tshisekedi a aussi rassuré qu'il travaille avec la MONUSCO et les organisations humanitaires pour assister la population, ajoute le député national Jacques Safari. Et c'est sur cette note que les élus du Kivu ont exprimé leur soutien au chef de l'État pour toutes les démarches politiques, diplomatiques et militaires entreprises.
L'évêque du diocèse catholique de Butembo, Beni, au Nord Kivu, appelle la population à apporter son soutien au nouveau gouverneur de province dans sa mission de rétablissement de la paix dans la région. Monseigneur Sikuli Paluku Melchisedek l'a dit jeudi après son rencontre avec le nouveau chef de l'exécutif provincial à l'évêché de Butembo. Pour le prélat catholique, la population et les collaborateurs du nouveau gouverneur doivent travailler main dans la main pour relever le défi sécuritaire de la région. Monseigneur Sikuli Paluku explique dans cet extrait choisi par Guylaine Kassassia.
C'est une charge très lourde, très compliquée à ce moment, mais avec le soutien, surtout la confiance que le président de la République a placé à lui, ce qu'il pense qu'il est capable d'aider à sortir de la crise dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Ça serait alors à chacun de nous de l'aider pour que cette confiance ne soit pas déçue. Ce que je peux dire à tout le monde, c'est que nous avons encore une raison d'espérer que le pire ne va pas nous arriver. Il faut que tout le monde soit rangé derrière lui. Surtout nous qui habitons ces trois provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Lui avec d'autres, surtout ceux qui vont travailler avec lui étroitement, car simple, il cherche le moyen le plus efficace pour que nous ne soyons pas toujours dans une position de faiblesse.
Au sud Kivu, les combats ont opposé les FRDC sur deux fronts. Hier, aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, les affrontements se sont déroulés à moins d'une dizaine de kilomètres de Nyabibwe centre, dont les territoires de Kalehe. L'armée régulière a repoussé les attaques des rebelles un peu plus vers le nord d'où ils sont venus. Pendant ces temps, le commandant de la troisième zone de défense de forces armées de la RDC, le lieutenant général Pacifique Masunzu, appelle la population du Sud Kivu à faire confiance aux forces armées de la RDC, message relayé par le coordonnateur du service de communication de l'information de la troisième zone de défense lors d'un point de presse tenu hier à Bukavu. Restons au Sud Kivu. Ce vendredi à Bukavu débute l'opération d'enregistrement des volontaires prêts à se rendre au front contre le M23 et ses alliés RDC. L'appel à la mobilisation populaire a été lancé hier par le ministre provincial de l'Intérieur, de la Défense et de la Sécurité. Jean Kassami nous explique dans quelles circonstances cette décision a été prise.
La décision a germé hier lors d'un meeting populaire tenu au terrain de Founou dans la commune de Kadutu par le ministre suspensionné. Des milliers de jeunes qui ont participé au meeting ont marqué leur accord de se faire enrôler au sein du mouvement Wazalendo pour défendre le pays contre l'agression. Ceux qui se font enregistrer vont bénéficier d'une formation accélérée avant de se ranger en ordre de bataille sur le front qui se déroule actuellement dans les territoires de Kalehe où les rebelles s'affrontent au FRDC dans le but d'assiéger le Sud Kivu. Ces jeunes déclarent qu'ils sont prêts à se battre quelles que soient les conditions et les prix à payer. Albert Kaacha, connu sous le sobriquet Foka Mike, signale qu'après la guerre, les volontaires pourront soit s'enrôler dans l'armée ou alors adhérer au sein de la réserve armée de la défense RAD. Les représentants des Wazalendo venus de différents territoires du Sud Kivu ont participé à ces meetings. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
À Kwilu, les épouses des militaires de forces armées de la RDC et des policiers ont manifesté hier jeudi à Bandundu pour protester contre l'agression rwandaise et celle du M23 à l'est du pays. Cette manifestation pacifique, bien encadrée par la police, visait également à soutenir les FARDC dans leur engagement à défendre la patrie contre cette oppression. La marche partie du rond-point Place de la Femme a emprunté les avenues Wamba et Kwango avant de se terminer au gouvernorat. Irène Boma Luzolo pour le reportage.
Tête couverte en foulard blanc, scandant des chants hostiles et tenant des rameaux, des centaines d'épouses des militaires et des policiers de Bandundu ont marché jeudi dans les rues de cette ville. Sur de nombreuses banderoles, affiches et pancartes brandies, on peut lire des messages tels que « Non à la balkanisation de la RDC, non à l'agression rwandaise, nous voulons la paix, soutien aux FARDC et autres ». Dans leur mémorandum remis au gouverneur des provinces, ces femmes en colère ont exprimé leur soutien à leurs époux qui sont les FARDC et leur consternation face à l'agression rwandaise et des rebelles du M23 à l'est de la RDC.
Nous sommes en train de marcher en ce moment. Nous sommes en colère contre le président Kagame qui nous fait la guerre injustement. Nous venons en ce moment aussi soutenir nos FARDC.
Nous sommes vraiment en désolation de ce qui se passe à l'est de notre pays. Nous soutenons notre président Fati, nous soutenons les FARDC.
Pour sa part, le gouverneur de la province du Kwilu, Félicien Kiwai, a également manifesté son soutien aux forces armées de la République du Congo. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Les étudiants des établissements d'enseignement supérieur et universitaire de la Tchopo sont déçus. La marche qu'ils ont tenté d'organiser hier en soutien au FARDC et au chef de l'État a été réprimée par la police. Cette marche a été annoncée 48 heures plus tôt en réponse à la note circulaire de la ministre des tutelles, Madame Safi Sombo Ayane Marie-Thérèse, qui avait décrété une journée sans cours dans toutes les institutions nationale de son secteur. Un reportage de Jacques Moukonkolé.
Les étudiants se sont rassemblés dans différents coins afin de descendre au centre-ville pour une marche de soutien au FRDC. Cependant, ils ont été tout simplement dispersés par la police à coups de gaz lacrymogènes. Les étudiants se disent frustrés et déçus.
Nous interdire serait une façon de nous frustrer et aussi de décourager le soutien de toute la population congolaise.
Nous marchons pour répondre au mot d'ordre de notre ministre. Ce n'est pas pour casser, mais pour soutenir nos phares d'essai.
Le recteur de l'université de Kisangani et président de la conférence des chefs d'établissement de l'ESU de la Tchopo joue à l'apaisement. Pour le professeur Jean-Faustin Bongilo, ce n'est qu'une partie remise, puisque, dit-il, au moment opportun, cette interdiction sera levée.
Nous attendons cet ordre-là et nous appelons tout le monde au calme. Nous sommes de cœur avec nos compatriotes qui sont là où les combats ont lieu. Mais le ministre n'a pas demandé seulement des activités de ce genre, mais aussi que nous puissions mettre la main dans nos poches, que nous puissions contribuer financièrement et matériellement.
Rappelons que le maire de la ville a suspendu toutes les manifestations publiques jusqu'à nouvel avis. Cette interdiction est intervenue mardi dernier dans la soirée en raison du débordement constaté pendant la marche de dénonciation de la présence des militaires rwandais à l'est du pays. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Je le disais dans le titre, la guerre dans l'est de la RDC connaît des évolutions diplomatiques. Choquée par l'avancée du M23, soutenue par le Rwanda, le Parlement européen a convoqué une session spéciale à Strasbourg le jeudi 30 janvier pour analyser la situation sécuritaire et humanitaire au Nord Kivu. Lors de cette session, des sanctions concrètes contre Kigali ont été proposées, rejoignant ainsi la position du Royaume-Uni quelques heures plus tôt. Les teneurs de ces déclarations avec vous, Blaise Makassi.
Le bureau a proposé aux membres du Parlement européen des sanctions fortes à l'endroit de Kigali, entre autres la suspension du mémorandum Union européenne-Rwanda, signé en février 2024, portant sur 5 domaines de collaboration. Il s'agit notamment de l'intégration des chaînes de valeur durables pour les matières premières et le soutien à la diversification économique, garantissant le bon fonctionnement et la durabilité de ces chaînes de valeur. Il suggère aussi de suspendre toutes les manifestations sportives internationales prévues cette année au Rwanda dans le souci d'utiliser ces pressions concrètes et obtenir la stabilité. Le représentant spécial de l'Union européenne dans les Grands Lacs a lui aussi recommandé des pressions robustes sur le Rwanda. De son côté, le Royaume-Uni a adopté un ton bien plus ferme à l'égard de Kigali. Dans un communiqué publié sur son site officiel, le gouvernement britannique a exigé le retrait immédiat des forces rwandaises de l'est de la RDC. Le Royaume-Uni dit envisager activement les prochaines étapes aux côtés de ses partenaires internationaux, y compris la possibilité d'un réexamen de tout soutien britannique au Rwanda.
Alors que le média font état de l'ouverture de nouveaux fronts par le groupe armé M23 dans la province du Sud Kivu, dans l'est de la RDC, des agences humanitaires de l'ONU notent que les prochaines 24 heures seront cruciales pour l'acheminement et la distribution de l'aide à Goma, la capitale du Nord Kivu, selon l'ONU. Le point avec Ronelli Ntimbonera.
Selon le programme alimentaire mondial PAM, les réserves de nourriture et d'eau s'épuisent à Goma et dans les zones environnantes. La nourriture s'épuise, l'eau est rare, les hôpitaux sont débordés, les déplacés sont déracinés par les conflits. Encore une fois, les familles se déplacent sans savoir où elles seront en sécurité, a alerté les PAM sur les réseaux sociaux X. L'agence onusienne s'est dit prête à reprendre l'aide alimentaire dès que la situation sera sûre. Mais nous avons besoin d'un accès humanitaire maintenant, a insisté sur X le bureau du PAM en RDC. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, a indiqué jeudi lors de son point de presse quotidien que la situation à Goma restait tendue et volatile avec des tirs occasionnels dans la ville. L'ONU est aussi particulièrement préoccupée par la situation au Sud Kivu, qui reste très instable, avec des informations crédibles selon lesquelles le M23 avance rapidement vers la ville de Bukavu, a dit M. Dujarric. Le mouvement transfrontalier de forces de défense rwandaise RDF se dirige vers cette ville, a-t-il ajouté, précisant également que des affrontements continuent d'être signalés entre le rebelle du M23 et les forces armées congolaises et les forces alliées au sud de Minova, au sud Kivu. Pour rappel, les casques bleus de l'ONU se sont retirés de la province du sud Kivu en juin de l'année dernière.
dont la province du Maniema. La conférence sur l'environnement, le tourisme, l'eau et l'agriculture, initialement prévue du 3 au 5 février, est reportée à une date ultérieure pour des raisons logistiques. Les organisateurs demandent aux participants et intervenants de faire preuve de patience et présentent leurs excuses. Écoutons Madame Antoinette Agambo, secrétaire exécutif du gouvernement provincial du Maniema, au micro de Florence Kizalunga.
Nous tenons à informer le public, notamment les invités, les orateurs et les partenaires techniques, que pour des raisons d'ordre logistique, la conférence sur l'environnement, le tourisme, l'agriculture et l'eau, prévue à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, du 3 au 5 février 2025, est reportée à une date ultérieure. Ceci pour nous permettre de bien organiser et également aux commissions des secteurs concernés de continuer à peaufiner les PAO et d'autres documents important qui n'était pas encore prêt. Comme vous le savez, cette conférence avait pour objectif de contribuer au bien-être de la population du Maniema par la relance des secteurs socio-économiques vitaux, notamment l'environnement, le tourisme, l'agriculture, l'élevage, la pisciculture et l'eau, qui prend en compte l'intégration dans un partenariat win-win avec les investisseurs dans divers domaines d'intérêt commun. La province du Maniema possède d'une immense potentialité au regard de son climat, de son sol et de son sous-sol hydrographique. Elle offre toutes les conditions d'une région à vocation agricole.
Actualité internationale.
Scène de liesse à Ramallah au soir du 30 janvier pour la libération de 110 prisonniers palestiniens après celle de 8 otages, 3 israéliens et 5 thaïlandais. Israël a finalement accepté de libérer les palestiniens après avoir obtenu des garanties que les futures libérations d'otages se passent en toute sécurité. Certaines d'entre elles ont été accompagnées de scènes de chaos à Gaza qui ont choqué les Israéliens. Ces libérations sont aussi un rapport de force qui se joue entre les autorités israéliennes et le Hamas. Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, a retardé la libération des prisonniers palestiniens pour protester contre ce qu'il estime être des scènes choquantes, mettant en danger, selon lui, les otages. Le Hamas, de son côté, a mis en scène ces libérations comme celle de la soldate Agam Berger sortant des ruines du camp de Jabalia dans le nord de la bande de Gaza afin de montrer l'ampleur de destruction à Gaza, réaffirmant aussi sa présence sur le terrain et qu'il n'est pas vaincu.
L'invité.
La journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées a été célébrée ce jeudi 30 janvier. Elle était placée sous le thème « S'unir, agir, éliminer les maladies tropicales négligées ». Elles sont présentes dans plusieurs zones de santé du Haut-Katanga. Elles sont dévastatrices, en croire le médecin coordonnateur provincial de lutte contre ces maladies. Pour en parler, le docteur Alice Moutekwa est notre invité. Elle s'entretient avec Jean Gandou.
Docteur Alice Moutekwa, bonjour.
Bonjour.
D'entrée des jeux, c'est quoi une maladie tropicale négligée?
Les maladies tropicales négligées, ce sont des maladies qui sévissent beaucoup plus là où il y a le climat tropical. Ce sont des maladies invalidantes qui touchent principalement les pays pauvres.
Quelles sont ces principales maladies qui sont dites tropicales négligées?
Dans le Haut-Katanga, dans notre contrée, nous avons l'oncocercose, les schistosomiases, la filariose lymphatique, le trachome et les joelmintiases qui sont les vers intestinaux. Les schistosomiases, souvent on le voit dans notre milieu, ce sont les bilharzioses où les gens peuvent arriver à uriner le sang. Là on voit beaucoup plus les gens qui sont riverains, les gens qui vivent dans des endroits où il y a des marécages ou bien qui se donnent à la pêche ou bien à la culture au potager. Ces gens, des personnes font souvent les bilharzioses qu'on appelle autrement schistosomiases. Quant à l'oncocercose, c'est la cécité de rivière. On perd la vision et quand on perd cette vision, elle est irréversible. Le trachome, c'est aussi une maladie cécitante, donc qui arrive à ce que la personne devient aveugle. Quand la personne atteint certaines phases, c'est irréversible. Il y a aussi les joelmintiases, qui sont les vers intestinaux. beaucoup plus les ascaris, ankylostomiases, qui font le paquet des maladies tropicales négligées. La filariose lymphatique, c'est ce qu'on appelle autrement l'éléphantiasis. Et aussi, dans certains cas, les hydrocèles, qui sont l'éléphantiasis, souvent dans les phases des complications de la maladie.
Et dans votre zone de gestion, où est-ce qu'on trouve le plus ces maladies?
Dans le Haut-Katanga, ils sont présents dans les 23 zones de santé sur les 27. Ce sont les 23 zones de santé où nous procédons aux distributions gratuites de masse de médicaments. Dans les zones co-endémiques, dans toutes les zones de santé, après les enquêtes, ça a révélé qu'elles ont une certaine prévalence qui atteint un niveau où il faut donner le médicament à la communauté. C'est là que nous agissons pour donner gratuitement les médicaments. La première étape, c'est la cartographie. Chez nous, c'est l'étape de base. Là, les équipes descendent dans les différentes zones de santé pour essayer de voir si la maladie se vit, les différentes maladies tropicales négligées. Après ça, il y a des normes qui vous disent que voilà, si la prévalence atteint tel seuil, tel niveau, c'est maintenant qu'il faut instaurer un traitement de masse à toutes ces personnes à risque qui vivent dans ces zones de santé où la maladie est présente.
Est-ce que toutes ces maladies sont évitables?
Ces maladies sont évitables par la chimiothérapie préventive, comme on l'a dit. On fait la prévention en prenant les médicaments. On se déparasite ou bien on enlève tous les microbes qui sont susceptibles d'entraîner la maladie. Les maladies là sont évitables.
Est-ce que la ville de Lubumbashi est aussi touchée?
La ville de Lubumbashi en soi, en termes de zones de santé, nous avons au moins 7 zones de santé, en disant toutes les communes de la ville. Nous avons certaines communes où on trouve les filarioses lymphatiques, l'éléphantiasis dans ses complications. Nous avons certaines zones de santé de la ville où il y a les schistosomiases, comme la zone de santé des Kampemba. Nous faisons des distributions de masse contre les bilharzioses en donnant les médicaments aux enfants d'âge scolaire. Donc, les zones de santé de la ville, ces maladies sont présentes. C'est beaucoup plus les vers intestinaux, les schistosomiases et la filariose lymphatique.
Comment est-ce qu'on attrape ces maladies?
On peut commencer avec l'oncocercose. C'est par piqûres des petites mouches noires qu'on appelle communément les maringouins. On peut attraper l'oncocercose par rapport au bilharzioses, ce sont certaines habitudes. Quand j'ai dit les pêcheurs, nous faisons des cultures maraîchères dans des marécages. Là, il y a des piqûres des mollusques. Quand vous êtes en contact avec les mollusques, les escargots, on peut attraper les bilharzioses. Il y a le trachome. Le trachome, nous incriminons les mouches qui transportent les microbes vers les personnes pour qu'ils soient infectés. Mais sinon, on incrimine un microbe qu'on appelle le chlamydia trachomatis qui cause la maladie. Pour les oelmintiases, ce sont les ascaris en contact avec le sol souillé, les aliments non propres, mal propres. Quand on ne lave pas les mains, on mange les aliments qui ne sont pas propres, on peut arriver à avoir les vers intestinaux. Il y a aussi la filariose lymphatique. C'est avec la piqûre juste de moustique qui peut nous donner le paludisme. Quand vous avez ce moustique qui est en son sein, ce microbe-là, il peut facilement nous transmettre pour faire l'éléphantiasis, la filariose lymphatique.
Docteur Alice Moutekwa, je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Docteur Alice Moutekwa, médecin coordonnateur provincial de lutte contre les maladies tropicales négligées, était interviewé par Jean Gando. Ainsi se termine ce journal sur Radio Okapi, à la mise en onde Jean-Claude Nsiala, à la coordination Jacques-Yves Molima, supervision Martin Sebujangwe et à la présentation Gisèle Cage. Restez connectés avec nous sur WhatsApp via le lien disponible sur nos réseaux sociaux, notamment Facebook et X. Je vous retrouve demain sur la même fréquence. D'ici là, prenez soin de vous.